Monsieur Finkielkraut ?
Je vais répondre. Tout de suite, là ? Ah ben ça oui. A commencé ?
Ben oui, ça a commencé.
L'émission a commencé ?
Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes.
Mais, excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir
sur Radio Campus Montpellier 102.2.
Et oui, ça y est, votre émission du jour de l'actu vient de débuter. On est ensemble jusqu'à 18h pour débriefer l'actualité de la semaine en compagnie des chroniqueurs. Cette semaine, on est nombreux autour du plateau pour cette deuxième de l'année, pour celle du mois de novembre d'émission. On a Thomas, comme d'habitude, fidèle au poste.
Bonsoir, et oui, on est effectivement plus nombreux que la dernière fois.
C'est vrai, petit comité la dernière fois.
Ouais, c'est
la
reprise. C'est la reprise tout doucement.
À côté, on a les petits nouveaux là, qui la semaine dernière vous regardiez du coin de l'œil sur le canapé en jugeant les vannes pourries. on a Pierre déjà. Comment ça va?
Salut, ça va bien.
Première fois
à la radio, ouais, c'est un peu bizarre.
Ah, c'est bizarre.
je m'entends dans le casque.
En plus, il y a même plus la musique et tout. Tu vois, ouais. C'est intimidant.
Ouais, au début, ouais.
Un peu
intimidant. Mais ça va aller, je pense.
Mais oui, ça va aller. Et sacrée voix, quand même, de radio. Non ? Vous trouvez pas ? Le petit truc un peu enveloppant.
Ah, okay, ouais, okay.
C'est pas mal. On a Pauline aussi. Comment ça va, Pauline ?
Bonsoir, ça va.
Première à la radio ?
Ouais, c'est pareil. Un peu stressant, mais ça va aller.
Première fois qu'on s'entend quand on parle ?
Ouais, c'est ça, mais c'est bien.
Ouais, c'est pas mal. Ça permet de poser sa voix, de pouvoir bien moduler sa voix comme on a envie. Et à côté, on a Léo. Alors toi, tu découvres la radio et en même temps, tu fais ton émission. Tu fais l'émission.
Oui, une petite chronique, mais ça va être cool.
Bah oui, ça va être cool. Alors pour cette émission, on en trois parties. Donc on commencera par les points chroniqueurs avec des petites infos que chacun a pu piocher dans l'actualité. On aura les gros titres à travers l'affaire Le Pen. On en parlera là. L'affaire judiciaire, ça sera toi, Léo, qui nous en parlera. J'ai un petit truc sur le bad buzz de la semaine. C'est un mec qui s'est fait virer parce qu'il a critiqué le Toulouse Football Club. Voilà, ça s'en trouve.
Virer de quoi ?
Virer de la mairie de Toulouse.
Oh, wow.
Okay. Donc là, sacrée histoire et tout le monde en parle. Donc on en parlera aussi, pour faire un peu comme les moutons. Voilà. Et puis ensuite, c'est en seconde partie de l'émission. Thomas, tu voulais parler d'un truc, toi ?
Je voulais dire deux mots sur les 35 ans de la chute du mur de Berlin.
Ah oui, quand même.
On aura ça. On
aura le goût.
Novembre 89, novembre 2024.
Alors, voilà. J'ai découvert un truc. J'ai découvert que Berlin, en fait, c'était quand même vachement bien à l'est et pas au centre de l'Allemagne.
Oui. Ah non, c'est pas du tout. C'est bien pour ça que ça a été la capitale de l'Allemagne de l'Est en partie, puisque la ville était coupée en deux, comme vous le savez. Mais ouais, c'est ça, c'est bien à l'est de l'Allemagne.
Ouais, donc en fait, là où j'ai compris que les mecs qui étaient du côté ouest, en fait, à Berlin, ils étaient vraiment perdus
dans une sorte d'îlot au milieu d'un pays qui était totalement, enfin, qui était différent de l'Allemagne, enfin, qui était un autre pays. L'Allemagne était donc divisée en deux à l'époque, mais bon, je reviens sur ça tout à l'heure, effectivement.
On reparlera donc les 35 ans de la chute du mur de Berlin.
Tout à fait.
Et puis, la dernière partie de l'émission, on fera le dossier à la fin cette fois-ci. On parlera du coup des élections américaines. Ah oui, on avait dit ici sur ce plateau que ça allait être les élections les plus serrées de l'histoire des États-Unis. Et en fait, ça a été la plus large victoire.
Oui, il a gagné le vote populaire. Trump, contrairement à la fois précédente.
Et ça fait la différence.
Oui.
Et bien, on en parlera. Et puis, en plus, Elon Musk, ministre.
Alors ça, oui, ça c'est encore...
Alors, il est ministre de quoi, du coup ?
En gros, il va faire des coupes budgétaires Il est chargé de faire des économies au niveau fonctionnel en Amérique.
Ok, d'accord.
Nous aussi, on en a un de ministre comme ça. Je sais plus comment il s'appelle ça.
Macron.
Pas mal. Non, mais on a vraiment un ministre qui est chargé, justement, de réduire les dépenses de l'État. Je vous propose qu'on passe de suite au point chroniqueur. Ça vous va ?
Tout à fait.
Allez, c'est parti. Alors, pour les points chroniqueurs, comme chaque semaine, chacun se ramène avec sa petite info qui l'a marqué. Et puis, on en parle. Qui c'est qui a envie de présenter son info ? Thomas, tu commences ?
Bah allez, oui, moi je voulais juste revenir sur... alors il y a plein de choses, effectivement, il s'est passé plein de choses ces dernières semaines, et bon, il y en a certaines dont on va parler un peu plus longuement dans l'émission, mais je voulais aussi revenir, je voulais notamment revenir sur une séquence qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous avez vu ça, entre Patrick Cohen et Éric Ciotti sur C'est à vous, une émission donc, sur France 5. Il y a eu... est-ce que ça vous parle ou pas du tout ?
Alors Patrick Cohen, je vois...
Oui, non, mais cette séquence-là en particulier.
Et non, je vois pas cette séquence.
En fait, si vous voulez, eh bien, il y a donc Éric Ciotti qui était invité sur le plateau de C'est à vous, et il y a eu un
Éric Ciotti qui ressemble quand même très fort à Lex Luthor.
Ah, je crois que tu allais dire quelqu'un d'autre, mais enfin un autre.
À qui?
Je sais pas, un autre personnage chauve, Voldemort, ou je sais
pas.
Ouais. C'est quelque chose qui revient.
Il fait vraiment le méchant dans.
Oui, en tout cas, c'est ça. Il fait très personnage de méchant, effectivement. Enfin voilà, effectivement. Mais en tout cas, il y avait pour revenir sur cette séquence-là, en fait, si vous voulez, il y a eu un sorte de clash entre Patrick Cohen et Éric Ciotti sur le à propos en fait du livre de Jordan Bardella. Vous savez que Jordan Bardella sort un livre qui a été selon lui censuré, en fait c'est tout simple. Ce qui s'est passé, c'est que la SNCF a refusé d'afficher de faire de la pub en fait pour ce livre, puisque en fait dans leur règlement c'est inscrit clair, enfin c'est assez clair que ils ne font pas la pub pour des livres politiques, quel que soit le camp politique d'ailleurs. Et sauf que pour le camp Le Pen et pour le RN, c'est limite un complot politique contre eux. Et donc Ricciotti va dans ce sens-là, dans le sens du RN. Et donc il y a eu tout un échange assez tendu entre Patrick Cohen qui donnait les faits, en fait, qui a affirmé effectivement que c'était pas une censure, que c'était juste le règlement auquel tout le monde devait se plier. Et Éric Ciotti a été dans une forme de négation de ça, du réel, en fait. Il y avait un dialogue de sourds, il y a un dialogue de sourds qui s'est vraiment instauré entre les deux. Pour moi, en fait, cette séquence, elle a été assez révélatrice d'une sorte de climat qui règne, qui est celui dans lequel les États-Unis sont un peu plongés, c'est-à-dire celle de la post-vérité. Et je trouve que c'est assez significatif de quelque chose qui est peut-être en train d'arriver de plus en plus en France, où quelque part on s'attarde plus forcément sur les faits réels, sur les choses qui sont vraiment réelles, et où finalement on peut plus discuter du tout, puisque on peut plus s'accorder même sur des faits, sur des simples faits. Et donc je trouvais cette séquence assez révélatrice de quelque chose de plus large, voilà, qui se passe actuellement dans le monde. Donc c'est pas forcément l'actualité la plus importante actuellement, mais je trouvais que c'était intéressant de voir à quel point le dialogue est complètement faussé, en fait, et complètement
l'adjectif précis, mais ça fait carrément miroir par rapport aux États-Unis.
Je trouve ça assez
moi ça me fait penser à un truc, le monde du rap qui a été bouleversé là, je crois c'est en début de semaine, avec l'affaire Nekfeu, je sais pas si vous avez un peu suivi.
Et
du coup ils se sont répondu à travers des textes, tout ça, enfin ça a commencé avec l'avocate qui a posté quelque chose sur Twitter.
J'ai pas vu du tout ça.
Nekfeu il a répondu.
À qui?
À l'avocate.
À l'avocate?
C'est l'avocate de l'ex-femme de Nekfeu qui a diffusé un papier officiel.
Ah oui, ok. Ouais.
Et où elle expliquait l'ex-femme de Nekfeu portait plainte pour agression sexuelle, violence conjugale, etc.
Ah oui, ça j'ai...
Corrigez-moi Léo, je sais que t'as suivi aussi.
Et ensuite il a répondu en parlant, en l'accusant elle tout de suite, en parlant de violence psychologique et notamment de prise d'otage d'enfants, de leur enfant. En fait, c'est une espèce de bataille, je pense, juridique, qui va suivre dans les prochains mois. On verra ce qu'il en est.
Ouais. Mais c'est vrai, ça avait fait grand bruit, ce truc. Enfin, ça a fait beaucoup de bruit. En plus, notamment Nekfeu, qui dans ses textes est très engagé sur la question féministe, entre autres, et qui avait sorti cette fameuse phrase « Il n'y a pas de fumée sans feu ».
Mais on en reparlait dans sa petite réponse.
Il a mentionné.
Ouais, il a dit non, mais moi, dans mon cas,
c'est pas pareil.
C'est compliqué après. Ouais.
Moi, je suis un peu triste parce que L'Ompal est tombé, Nekfeu est tombé.
Putain, en plus, moi, j'écoute pas beaucoup de rap en général, et puis L'Ompal, c'était un des rares que j'écoutais, justement.
Et bientôt, ça va être la fin du rap de Babtou.
Ouais, c'est ça.
Bon. En tout cas, dès que je commence à écouter un artiste, j'ai l'impression qu'il y a une affaire qui tombe juste après ou pas longtemps après. Enfin, voilà, bon.
Comme quoi, c'est pas ce auquel on pense qui tombe en premier.
Ouais, finalement.
Et oui.
Ah oui, l'abbé Pierre. Petit ange.
Ah ouais, elle était osée, celle-là.
Et alors, juste si je peux juste me permettre, parce que j'ai oublié par rapport à ce que je disais juste avant, je voulais juste conseiller vite fait une émission qui s'appelle Enquête de politique sur France Inter, de Thomas Legrand, et qui a donc la dernière émission c'était intitulée Le mensonge et la fiction, nouvelle source de légitimité, point d'interrogation. Et il parle justement de Trump et de la façon dont il instrumentalise la vérité, le mensonge, tout ça, comment il arrive à faire passer ces mensonges. Notamment, on a vu ce qui s'était passé avec ce qu'il a dit sur les Haïtiens dans la ville de Springfield, et comment ce genre de choses-là peut passer, parce qu'en fait, il l'explique beaucoup mieux que ce que je pourrais faire là en quelques secondes. Donc allez écouter ça si ça vous intéresse. Voilà. Ouais. Voilà, pour terminer sur ce que je disais tout à l'heure.
Ouais, ça appuie beaucoup sur les croyances des gens, et justement, c'est là-dessus où on parle de populisme.
Oui,
il s'appuie sur.
Oui, puis
sur,
disait qu'en fait, il y a beaucoup de gens en fait qui savent très bien que c'est pas vrai, tu vois, que les migrants ils mangent pas les chats et les chiens, mais qu'en gros ils préfèrent croire ça parce que ça les arrange et que ça va dans leur sens, et plutôt que croire d'autres.
C'est presque enfin, de la publicité, c'est du marketing.
Oui,
en fait.
Oui, c'est ça. En fait, c'est
des gros mots, des.
Tout à fait, ouais.
Projetés à la tête
en
des
fait,
gens.
En fait, l'idée c'est d'instaurer un narratif. Quel que soit voilà, le fait que ça soit vrai ou pas, finalement, importe peu par rapport à, au but qui est recherché. Et,
tant que c'est attaché, une fois que c'est installé, c'est attaché à la personne. Et il y a toujours ça qui rentre en compte. Ça me fait penser à des trucs, par exemple, en Russie, il y a aussi des stratégies comme ça, où par exemple, on peut faire dévoiler des affaires, des fausses affaires sur des gens, simplement pour associer un nom à une affaire.
Ouais.
Voilà, simplement créer le doute, ou créer en tout cas une espèce de,
puis,
de représentation.
Pour cette phrase-là que tu dis, Trump, après, ils en ont fait des mèmes, des musiques, enfin, Internet, ils relayent à chaque fois
j'ai
ça.
J'ai vu ça, ouais. Ouais,
et on fait passer pour une blague alors que bah, maintenant il est président, quoi. Du coup, c'est un impact.
Pour la deuxième fois.
Ouais, voilà. Ces petits trucs humoristiques.
Oui, et puis en plus, ça peut permettre de lui donner une image plus, plus positive, en fait, aussi.
Ouais, ouais.
Comme les guignols de l'info avec Chirac, par exemple, à l'époque. Enfin, il y a un côté où ça peut avoir un effet un peu inverse à ce qu'on voudrait faire.
Ouais, 100%.
Ouais, je pense qu'il part du principe qu'il n'y a pas de mauvaise publicité et qu'il peut dire tout et n'importe quoi, et que justement, plus il dira des choses choquantes, plus il aura de visibilité, en fait, dans l'espace médiatique. Je pense que c'est la stratégie.
Ouais.
Ouais, totalement.
Eh bien, je propose qu'on fasse le miroir, du coup, parce que cette affaire que de Le Pen, là, dont tu... De Le Pen. Pardon.
Lapsus.
De Ciotti et de Bardella, fait aussi écho, en fait, finalement, à ce qui se passe en Amérique, et encore plus avec cette affaire judiciaire qui arrive, là, avec Marine Le Pen, et avec le RN, qui fait presque... qui balance, en fait, le miroir avec ce qui se passe aux États-Unis et Donald Trump et ses différentes accusations qu'il peut avoir. Léo, tu voulais nous parler justement de Marine Le Pen et de ce qui se passe là autour du RN, parce que c'est un peu flou. J'ai entendu le procureur qui a proposé quelque chose, mais qu'est-ce qui se passe?
Alors oui, ça reste des décisions qui sont pas encore avérées, il va y avoir des longs mois de discussions entre le RN et la Cour pénale. Donc oui, après un mois et demi d'audience au tribunal de Paris, c'est ce mercredi que donc le parquet il a réclamé de lourdes sanctions contre le parti du Rassemblement National et sa tête de file Marine Le Pen. Ces réclamations, elles font suite au procès des assistants parlementaires du parti, jugés pour soupçon de détournement de fonds publics du Parlement européen suite à la découverte de nombreux emplois fictifs parmi les assistants d'eurodéputés. Sur une période qui s'étend donc de 2004 à 2016, certains d'entre eux, ils étaient payés par le Parlement européen, alors qu'ils travaillaient qu'en France, en fait. C'était clairement des emplois fictifs. Le parti en lui-même, il est donc officiellement poursuivi pour complicité de détournement de fonds publics européens, et il encourt une amende ferme de 2 millions d'euros. Et donc Marine Le Pen, qui était donc présidente au moment des faits du parti, elle risque donc jusqu'à 5 ans de prison, dont 2 ans ferme, une amende de 300 000 euros, mais surtout, et c'est ce qui a créé la sphère médiatique hier, l'interdiction de se présenter à une quelconque élection pendant 5 ans. L'élection de 2027 donc, est remise en question. Elle a même déclaré hier à la presse que le parquet était extrêmement outrancier dans ses réclamations, notamment avec l'exécution provisoire dont il veut frapper l'ensemble de ceux qui sont poursuivis. Elle espère donc que le tribunal ne suive pas les décisions du parquet. Le RN a donc plutôt mauvaise presse cette semaine, on peut le dire. Cette décision du parquet, elle intervient quelques semaines après le début de la campagne de Jordan Bardella, justement, on en parlait pour la promotion de son livre. Le procureur donc en charge de l'affaire, Nicolas Barré, en réponse à Marine Le Pen, il rappelle que le député européen, il ne peut pas faire un libre usage de son assistant parlementaire, sinon c'est constitutif de détournement de fonds publics, forcément. Ce qui a aussi fait beaucoup de bruit concernant cette affaire, c'est la réaction d'une partie de la politique française, notamment celle de celui qui connaît assez bien la justice puisqu'elle a été accusée de viol, l'ancien ministre Gérald Darmanin. Il a été l'un des premiers à réagir, sitôt connu les réquisitions contre Marine Le Pen et le Rassemblement National, il a pris la parole sur X, en jugeant profondément choquant une inéligibilité de Marine Le Pen qui, selon lui, restreindrait grandement le pouvoir électoral des Français. Et le sien aussi, j'imagine. Cette défense d'une justice à deux vitesses de sa part, avec d'un côté des peines planchées pour certains et l'immunité pour d'autres, elle est assez paradoxale. C'est ce qu'a souligné sur X aussi le député socialiste Arthur Delaporte. Et même si ce n'est qu'un épisode politique comme un autre, une personnalité politique de plus au tribunal, ici c'est vrai qu'avec l'ombre de la présidentielle de 2027, je pense que le sujet valait sa petite chronique.
Carrément, c'était le gros os là de la semaine. Moi, j'allumais ma télévision hein, après quelques jours d'ermite, et puis oui, j'ai une télévision.
Et c'est ça, j'allais dire télévision.
c'est vrai. Et donc BFM TV là, et boum, je vois donc Marine Le Pen inéligibilité 5 ans, et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe alors et voilà, et donc on est vraiment là en plein dans l'affaire. Alors ça veut pas dire que ça va être effectif, si je comprends bien.
Ah oui, c'est en discussion justement. Voilà. C'est pour ça que
c'est le réquisitoire pour l'instant. Mais
ouais.
Donc là, il va y avoir défense et attaque.
C'est ça.
On va voir si ça va jusqu'au bout, parce qu'aux États-Unis justement, parce qu'on en parlait, enfin, Trump avait été justement menacé d'inéligibilité, et puis finalement ça avait été cassé par la Cour suprême, je crois. Enfin, le jugement. En fait, le jugement avait été prononcé, il avait été condamné, et finalement ça avait été cassé par la Cour de suprême. Du coup,
oui,
j'imagine.
Cour suprême, voilà. Qui avait été élue par Donald Trump, parce que c'est lui qui choisit les jurys.
Ah bah oui. Oui, c'est ça.
Et ouais, c'était
alors
ça.
Que contrairement à la France où les juges ne sont pas élus et où, enfin, il y a quand même une différence dans le. Voilà.
Bon après, on a nos failles aussi, parce que le Conseil constitutionnel, les sages, là, sont aussi désignés par les présidents.
Ils sont nommés, c'est ça ?
Ils sont nommés. Mm-hmm. Ce qui fait que,
mais ils sont nommés par qui ?
Le président, par exemple.
Par le président.
Oui. Et du coup, ce qui fait que finalement, enfin, c'est exactement. Mm-hmm. Ouais, je crois que c'est le président. Ce qui fait que finalement, il y a une espèce de connivence un peu parfois.
Ouais.
Et la dernière fois où il y avait eu ce truc-là avec la réforme des retraites, il me semble.
Mm-hmm.
Ou je sais plus. Ou la loi immigration.
Oui, il me semble que c'était ça.
La réforme des retraites. Mm-hmm. Il y avait eu ce flou-là.
Mm-hmm. Ouais, c'est. Ça pose question, en tout
un petit peu, hein, les liens politiques. Bon, en tout cas, curieux de voir ce que ça va donner, parce que là, on a quand même un acteur majeur de la prochaine campagne présidentielle, possiblement d'ailleurs la future présidente de la France, qui potentiellement pourrait ne pas se présenter. Donc, ce n'est pas rien. Alors, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que finalement, ça arrangerait pas...
Monsieur Bardella.
Oui,
c'est ce que j'ai oublié de le dire, mais oui, effectivement, c'est vrai il est derrière aussi, il attend, je pense. Mais
je ne sais pas s'il avait si c'était préparé à se présenter aussitôt à l'élection présidentielle, parce que je pense que dans leur esprit, c'était d'abord Marine Le Pen. Enfin, on rappelle quand même qu'il a que 29 ans, un truc comme ça. Donc,
On va l'avoir pendant 30 ou 40 ans. Là.
Ouais.
Au moins.
Un petit peu, peu tôt, quoi.
S'il n'a pas une affaire sur le dos. Mais lui aussi, il était à l'intérieur de ce truc des assistants parlementaires, parce qu'il était assistant parlementaire, lui, à un moment.
Alors,
donné.
Oui, mais étant donné qu'il est très jeune. La période était de 2004 à 2016.
Ah
je
oui.
crois qu'il fait pas
il
partie
pas
des.
Ah ouais.
Ouais.
Pas dans cette période-là.
Non. Par contre, il y a Julien Odoul. Je sais pas si vous dit quelque chose.
Ouais,
je crois
aussi,
qu'il est dedans. Il y a certaines grosses personnalités du RN qui font partie du procès aussi.
Ah oui. Il y a son ex-mari ou je sais plus quoi, Marine Le Pen, le maire de Perpignan.
Louis Alliot,
Michel
effectivement.
Il a pris la mairie de Perpignan et qui la lâche plus depuis un moment là.
Je me demande s'il n'y a pas aussi le maire de. Non, mais le maire de Béziers, il n'est pas au RN.
On l'a vu, on ne sait pas, c'est la Girouette,
on ne sait jamais.
Attendez, aux dernières élections européennes, il a dit qu'il était prêt à voter pour Glucksmann, parce qu'il défendait l'Ukraine.
Mais c'est un mec, il vient de Reporters sans frontières au départ. Son parcours est assez étrange, enfin, on ne va pas s'étendre sur lui, mais c'est un parcours un peu particulier.
Cet homme a une idéologie assez étrange, de toute façon. Enfin, c'est assez mouvant, j'ai l'impression.
Oui.
J'aimerais beaucoup l'avoir dans l'émission pour qu'il nous explique son point de vue. C'est vrai, on devrait
peut faire une émission délocalisée à Béziers, sinon.
Ah ouais, carrément. Moi, je serais trop chaud. Et qu'il nous explique un petit peu sa trajectoire, ses idées, qu'est-ce qui est plus important.
Sa vie, son œuvre.
Voilà.
Tout à fait, ouais.
Et personnage très apprécié à Béziers, au demeurant. En tout cas, par une certaine partie de la population.
Mais en tout cas, il a été réélu. Ça fait 10 ans qu'il est, 10 ans qu'il est au pouvoir depuis 2014, en tout cas.
Oui. Par contre, sa femme, qui aurait pu être députée, s'est fait. Gerté par une candidate RN qui était en face.
Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient le choix entre le RN.
C'est pour ça qu'ils voulaient voter Glucksmann.
Ça a été la vengeance du RN parce qu'il était un peu trop un électron libre. Voilà pour ça. Alors je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. On est bien dans les temps. Cette pause musicale. Alors vous allez voir. J'ai pris cette chanson juste pour la vanne qu'il y aura après. Alors c'est une chanson qu'on a beaucoup entendue pendant les JO et que vous avez peut-être fredonné, c'est l'hymne à l'amour qui avait été chanté par Céline Dion sur la Tour Eiffel. D'accord. Et celle-ci, par contre, elle est par son interprète original qui est.
Mmh.
Ah ouais, merci.
Vous ?
Edith Piaf.
Okay.
Voilà. Donc.
Un petit doute.
Alors on est parti, on va écouter Edith Piaf de Hit Mal Amour. Et on se donne rendez-vous juste après pour parler du dossier de la semaine autour des États-Unis.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre de bien s'écrouler. Le m'abandonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Que tu m'aimes, j'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi.
Changer de femme quand on trouve mieux. Mais c'est quoi de trouver mieux qu'une femme qu'on aime, si on aime sa femme? Alors c'est ça. Non, ça m'a c'est surpris.
Pas... Quand je dis qu'on est fidèle tant qu'on n'a pas trouvé mieux, c'est parce que c'est vrai que ce soit pour une voiture, une femme, un frigo, n'importe quoi.
Ah oui, bah attendez, un frigo, oh là là.
Voilà, c'était juste pour cet extrait, donc évidemment, de l'heure des pros de Pascal Pro.
Très belle transition.
Ouais, avec Edith Malamour, je trouvais ça magnifique. Donc voilà, sachez, on est fidèle tant qu'on trouve pas mieux. Une belle conception d'amour.
Eh oui, ça ne m'étonne pas de leur part.
Des invités.
Ouais.
C'est pour ça que t'as une télé, pour regarder l'heure des pros.
Oui, en fait, tu regardes l'heure des pros en fait tous les jours, tous les soirs.
Alors, pour de vrai, j'ai jamais. En fait, je me suis toujours dit ouais, mais les gens ils exagèrent avec ces news et tout et tout. Et tout. Et puis j'ai jamais écouté ces news. Et puis je sais pas, il y a des fois, du coup, j'ai jappé dessus et je me suis dit. Ah ouais, quand même.
Il faut faire l'expérience.
C'est une chose. Hein.
Ah ouais, c'est un délire.
Je t'avouerai que je ne me suis jamais aventuré à regarder par moi-même ces news. Par contre, j'ai vu plein d'extraits commentés par certains streamers ou d'autres personnes, mais je ne me suis jamais Je me suis jamais aventuré à regarder par moi-même parce que
mais regarde un jour, c'est impressionnant.
Il faut regarder parce que tu dis c'est des extraits, tu te dis le plus quoi qu'il peut y avoir, et en fait t'as des trucs c'est dingo.
Il y en a un qui m'a vraiment marqué, c'était celui avec le fameux, enfin l'émission, une émission catholique, je sais plus ce que c'était exactement le titre, c'était les forces du mal ou je sais plus quoi. En gros ils annonçaient très sérieusement que le problème majeur de la société, c'était les forces du mal, les forces de l'esprit, ou je sais pas quoi. Ils s'étaient crus dans Harry Potter, ou je sais pas quoi. Mais c'était assez fou, ça.
Ça, c'est pour le coup, par exemple, typiquement, c'est une vraie émission sur CNews qui passe très souvent.
Je sais plus
comment elle s'appelle. Mais il faut, celle-là aussi.
Je crois que c'est le dimanche, parce que c'est le jour
de la messe.
Il me semble que c'est le dimanche, cette émission. J'avais vu ça.
Vraiment, le nombre de trucs dingues dans cette émission-là spécifiquement qui sortent, je trouve ça fou. Voilà.
Non, puis ils disent les choses explicitement. Mm-hmm. Enfin, vraiment, c'est explicite. On sait pour qui ils votent, on sait pour qui ils sont. C'est pas caché.
C'est engagé.
Plus de neutralité.
Oui. Et c'est impressionnant.
Après, moi, la question de la neutralité, personnellement, ça ne me dérange pas parce que ça n'existe pas, la neutralité dans le journalisme.
La neutralité totale n'existe pas. Et puis, de toute façon, c'est pas forcément un mal d'avoir une ligne éditoriale, tu vois. Mais tant que c'est affiché clairement, et voilà, qu'il n'y a pas de. Je pense que ça doit aussi être cadré, tu vois, ça doit pas être non plus tout le temps militant. Enfin, en vrai, c'est compliqué comme question. Et c'est vrai que eux, ils pourraient rétorquer que le service public est de gauche, voire d'extrême gauche, tu vois. Donc, Donc, du coup,
quand on parlait de l'exportation de tout ce qui peut arriver de l'Amérique point de vue politique en France, politique spectacle, avec ce clivage, la post-vérité, comme t'as expliqué, il y a aussi ce truc que Bolloré essaie d'instaurer là, ce truc en Amérique, c'est Fox News.
Fox News, Rupert Murdoch.
Ouais. Et c'est quoi l'autre chaîne qui est un peu plus de gauche?
Je sais plus. De gauche.
Entre guillemets, mais en tout cas, il y a ces deux grosses entités qui se mettent un peu en concurrence.
Bah, tu vois, on entend plus parler de Fox News, en tout cas en Europe, parce que ça marche, ça marque les esprits, tu vois, des émissions comme celle dont je parlais sur les forces de l'esprit, tu vois, on le retient, alors qu'une émission un peu plus, peut-être un peu plus sérieuse, mais un peu plus banale, ça passe plus inaperçu, forcément. Et effectivement, je citais Rupert Murdoch, donc c'est un peu l'équivalent de Bolloré là-bas. Enfin, c'est un milliardaire, en tout cas, qui a effectivement contribué au développement, enfin, qui est propriétaire de Fox News et qui a contribué au rayonnement, justement, de cette chaîne. Et en faire la chaîne aussi puissante qu'elle est aujourd'hui. Enfin, c'est un très vieux monsieur, je crois qu'il a 90 ans, mais ça fait des années qu'il est dans le game.
C'est leur Bolloré à eux, quoi.
C'est un peu leur Bolloré à eux, mais bon. C'est le milliardaire d'extrême droite qui a racheté une partie des médias, notamment Fox News.
Mais ça fait longtemps du coup que c'est comme ça, non?
Oui, ça fait un petit moment, effectivement.
Ouais. Okay. Maintenant, c'est Musk avec les réseaux digitales.
C'est encore un autre, domaine. Ouais.
Et oui, mais c'est un contrôle de l'information de certaines manières.
Oui, bien sûr. Et c'est peut-être plus inquiétant encore.
Oui, moi je trouve que c'est plus inquiétant. Mmh. Ouais. Surtout avec la génération qui arrive, qui justement est beaucoup plus habituée à cette forme d'information-là. Mmh.
Bah oui, c'est sûr. Et puis, apparemment, il va avoir un rôle dans le gouvernement, comme on en parlait tout à l'heure. Je ne sais plus si c'était hors antenne ou pas, mais bon, c'est un vaste sujet, en tout cas.
Alors, j'ai retrouvé la chaîne, c'est CNN, l'autre.
Ça,
c'est fort.
Ce serait un peu, un peu l'équivalent de BFM, quoi.
Oui, c'est vrai. Non, mais on critique beaucoup BFM. Voilà, c'est tout.
On critique beaucoup BFM.
Arrête-toi là.
Après, en vrai, la ligne éditoriale de BFM est pas la pire ligne qu'on ait pu qui est. Et je trouve que les émissions de BFM TV, globalement.
Tu regardes souvent BFM TV.
Alors, à une époque, j'ai regardé pas mal et j'aimais beaucoup le 22h minuit que je trouvais assez cool avec les éditorialistes qui venaient parler. On avait tout, évidemment, il y avait le point qui venait aussi parler, mais il y avait vraiment.
Non, mais écoute.
Il y avait le mec de Marianne qui parlait. Et le mec de Marianne, à chaque fois, c'est le mari de Natacha Polony, pour ceux qui voient un petit peu.
Oui.
Et c'est un critique gastronomique. Et il vient donner des avis politiques. Et moi, j'ai toujours trouvé ça facile qu'il est là. Et en fait, son domaine, c'est la bouffe. Et il est là en train de te parler de politique.
La gastronomie, c'est politique. De toute façon.
Tout est politique.
Ce sera le prochain sujet.
Il ne faut pas politiser la gastronomie, comme diraient certains. C'était Macron qui avait dit il ne faut pas politiser le sport. Alors que le sport,
On aurait pu parler de ça pour politisation du sport. Il y a eu France Israël hier en foot.
On a parlé de fait devant.
C'est vrai.
Alors France Israël,
Non.
Un avis sur France Israël.
Un avis sur l'Israël et la Palestine.
Non, non.
Comment ça?
Tu es contre. Est-ce que tu défends le Hamas?
Plus faible. Donc audience on sait pas encore, mais plus faible participation, enfin en tout cas de fans présents dans le stade.
Oui, j'ai vu une vidéo hier, je savais pas que si c'était du fake footage ou quoi, mais effectivement la vidéo il y avait personne quoi.
Par contre en tribune il y avait Macron, il y avait qui d'autre, mais plein d'autres
Au moins il se fera pas huer.
Homme politique. C'est une solution. Pour
Il y avait tout le gratin là.
Il y avait Manuel Valls aussi.
Ah bah lui dès qu'il faut qu'il y a ça,
lui il est là partout, je sais pas si vous vous souvenez pendant la réélection de Macron lors de son intronisation là à l'Élysée, il y avait justement Manuel Valls qui était là et qui faisait les gros yeux, enfin les yeux doux à Macron, enfin voilà. C'était assez ridicule en fait, tu le voyais dans le public, il était complètement il applaudissait
il était complètement
à fond, il a même pas eu un poste de secrétaire d'État ou je sais pas quoi, il fait vraiment presque de la peine je trouve.
Vous imaginez parce que Manuel Valls il est dans son comme parti hein, et donc là Manuel Valls pour être à la tribune avec les politiques, il a dû demander à quelqu'un quand même pour être là-bas et avoir sa place et être avec les autres.
Il a envoyé son mail.
Il a payé sa place et tout. Non.
Alors,
il s'est faufilé.
Incroyable.
Non, mais c'est assez pathétique.
En parlant de sport, il me semble qu'il y a un combat aussi ce soir.
Ah ouais, c'est quoi le combat?
C'est Mike Tyson contre Jake Paul.
Attends, mais Mike Tyson, il a pas raccroché les gants la nuit?
Il a 58 ans, il va les remettre pour se confronter à Jake Paul.
Jake Paul, c'est qui?
Un jeune de...
Un streamer, c'est pas ça?
C'est un YouTuber, je crois.
Un YouTuber.
C'est son frère qui est très connu, Logan Paul.
Ça, ouais.
Je savais pas qu'il avait un frère.
Et oui,
voilà,
c'est
le combat,
même famille.
Il est très attendu, je crois qu'on pourra le voir sur Netflix.
C'est lui qui s'est chauffé en disant qu'il peut battre Mike Tyson et tout.
Oui, c'est ça, ça avait fait polémique parce que c'était très marketing, encore une fois, c'est les États-Unis de dire ça.
C'est la boxe.
Et Mike Tyson étant âgé, quand même, et fragile, parce que maintenant âgé.
Oula, attention.
Oui, je dis ça, mais en fait, il y a plein de gens qui se sont dit pourquoi il accepte, quoi, Mike Tyson. Il a plus rien à prouver. Est-ce qu'il va pas se blesser? Ça fait je sais pas combien d'années qu'il avait raccroché les gants. Donc on verra. Je crois que c'est ce soir.
Ouais, c'est en France, ce sera à 2h du matin.
On peut voir où ça?
Sur Netflix.
Netflix qui prend les droits.
Oui. Ah ouais. Ah,
okay. Normalement, en France, c'est MMA, tout ça, c'est DAZN là.
Mais c'est même pas du MMA là, c'est un combat événement.
Boxe anglaise, oui. Ok. Nous, on va avoir le retour, là. Baki contre Cédric Doumbé, là.
Ah bon? Il y a un...
Eh oui, match 2.
Ah, mais il est prêt, il y a une date et tout?
Je sais pas si à la date, mais ça y est, c'est annoncé.
Ah, super.
Donc, c'est en train de se chauffer sur les réseaux, là. Ils vont bien nettoyer la piste pour pas qu'il y ait des chardes, et puis c'est parti.
Ouais, bah oui, c'est parti.
Et voilà.
Le mec là, pour le coup, j'ai pas du tout suivi, non.
Le combat plus attendu en France, la place, je sais plus comment
c'est quoi
coûté.
les noms des gens dont tu parlais?
Cédric Doumbé, hein.
Ok, je connais pas.
Et Baki, je sais pas son prénom.
Jean-Pierre Bacri. Non. En fait, je voulais juste faire une blague. C'était juste pour ça. On peut passer à autre chose.
Remarque, ça aurait pu être très très drôle de l'avoir aussi dans la cage.
Oui, sauf que pareil.
Peut-être qu'il aurait tenu plus longtemps.
Je sais pas, je suis pas sûr.
Pas sûr.
Honnêtement.
Voilà, le round 2 qui arrive. France-Israël, 0-0. J'ai regardé le match, c'était pourri. Voilà.
Ah, okay. Tu l'as regardé quand même.
Oui, je l'ai regardé parce que je voulais voir un peu ce que ça.
Et c'était pour qui?
Patriote.
C'était pour la France. C'était pour l'équipe de France. En plus, qui était le capitaine vu qu'il n'y avait pas Kylian Mbappé?
Ah, bonne question.
Regardez-moi ces patriotes en mousse.
Je connais que Zidane et Mbappé dans le foot. Quoi.
Qui est-ce que ça pourrait être? Tchouaméni?
C'est N'Golo Kanté.
Ah, oh, okay. C'est d'accord. Bien.
Voilà. Et il a parlé en conférence de presse et j'ai découvert le son de sa voix.
Oui.
Très agréable.
Oui.
Voilà.
Très bien.
Ouais, voilà. Le pauvre, c'était la première fois qu'il est capitaine. France-Israël, question sur la Palestine direct. Allez, c'est parti. Voilà. Mais il était très bon. Et le match était vraiment pourri. On va passer au dossier quand même, hein, le dossier des États-Unis. Alors, allez, petite jingle et on y va.
La France, elle croule de ça. Donc, quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui dit on va virer la démocratie, on va virer la bureaucratie.
Oui. Extrait, évidemment, il parlait de Elon Musk qui avait pris du coup les rênes, qui va aller contre la bureaucratie. Et là, donc évidemment le lapsus, on s'étonne pas que ça soit là-bas. On va parler des élections présidentielles pour un petit peu de fait. Donc Kamala Harris qui a perdu très 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 largement, hein, plus grosse défaite entre démocrate et républicain depuis très longtemps, j'ai pas la date. 226 donc voix en gros hein, pour Kamala Harris contre 312 pour Donald Trump. Les états clés tous ont basculé et Thomas, hors antenne, tu me disais le vote populaire.
Oui, le vote populaire. En fait, c'est la première fois. Enfin, en tout cas, c'est des deux élections, enfin des trois élections du coup auxquelles Donald Trump a été a participé. C'est la première fois qu'il a le vote populaire en sa faveur, puisque en 2016, il n'avait pas eu le vote populaire. Il avait eu les grands électeurs, donc comme c'est le système américain est assez particulier, il avait eu le vote des grands électeurs, mais pas le vote populaire, ce qu'il a eu cette fois-là.
Qu'est-ce que tu entends par le vote populaire, c'est...
Alors là, comme ça, bon, j'ai la tête de Donald Trump là dans le studio, il y a un masque Donald Trump qui vient de me perturber. Mais en gros, alors si je devais schématiser le plus rapidement possible, il y a des États, dans chaque État, il y a des grands électeurs qui sont un peu l'équivalent des... Enfin, c'est les sénateurs, les députés qui sont donc les représentants américains qui, en fait, c'est eux qui votent directement pour le président ou la présidente. Et les citoyens, en fait, américains votent pour une liste et non pas pour le président directement. Ou en tout cas, non, pardon, ils votent pour précisément la liste sur laquelle, en fait, sur le bulletin de vote, j'avais vu le bulletin de vote, en fait, il y a marqué le nom de tous les grands électeurs de l'État dans lequel ils se trouvent. Okay. Et en fait, ils votent pour cette liste-là et ensuite, les grands électeurs vont voter pour le président ou le candidat qu'ils préfèrent.
Ouais, c'est une sorte d'européenne, en fait.
Là, comme ça, bon, je l'ai pas exactement... c'est un peu complexe comme système, mais en tout cas, tout ce qu'il faut retenir, c'est que les gens ne votent pas directement pour le président, mais que c'est les grands électeurs qui votent qui élisent directement le président, comme c'était le cas en France, finalement, avant la 5e République, en fait.
Et alors, un État, quand tu gagnes, par exemple, je sais pas, par exemple, 5 grands électeurs à gagner, c'est où tu gagnes les 5 ou tu perds les 5?
C'est ça, c'est winner takes all.
Pareil que le...
En gros, c'est tous les... Voilà, tu viens de le dire. Voilà.
Le gagnant prend tout,
tout à fait.
D'accord, ah oui, c'est vrai que donc là, ça y est.
C'est pour ça qu'en fait, il y a des États en fait, où les gens ils se disent que finalement, ça sert presque à rien d'aller voter, puisque l'État, il est quasiment déjà garanti... tel ou tel candidat est déjà garanti de gagner dans certains États. Ta voix ne compte pas beaucoup. C'est un des problèmes, justement, de ce système-là, c'est que... t'as des États où t'as quasiment pas de poids en fait. Ton vote a quasiment pas de poids.
En gros, là, le vote populaire, c'est simplement il y a 50% des Américains qui ont voté pour Donald Trump.
Il a la majorité des voix
qui ont voté.
Okay. Et après, je sais pas exactement comment le calcul est fait, tu vois, mais c'est l'information que j'ai retenue.
Dans ma tête, que le vote populaire, ça représentait un petit peu le vote des quartiers populaires.
En gros,
quoi.
Je crois que ça veut dire qu'en gros, s'il y avait pas ce système-là, il aurait quand même gagné, contrairement en 2016 où il aurait perdu si on avait compté que les voit comme en France en fait.
Oui.
Voilà.
Ok, très bien. Bon, bah, il a gagné le vote populaire. Et bon, en tout cas, un grand questionnement déjà sur l'Amérique qui est celui de est-ce qu'ils peuvent voter pour une femme, quoi? Parce que on se dit, ça fait deux fois qu'à chaque fois, c'est un des facteurs. On dirait que le facteur, c'est que c'est une femme qui est en face de quelqu'un en fait.
Bah, c'est en tout cas, oui, les deux fois, c'était une femme qui était en face de. Mais après, ça illustre. Alors, je sais pas, en vrai, je sais pas s'il y a eu des études par rapport à ça. Si les gens, si c'est une des raisons pour lesquelles les gens ne votent pas pour Kamala Harris ou pour Hillary Clinton en 2016, ou si finalement la raison principale, la plus importante, finalement, c'est pas que c'est plutôt, enfin le fait qu'ils aient pas envie de voter pour les démocrates. Enfin, je sais pas en fait si c'est vraiment une raison, un critère pour certains de ne pas voter pour les démocrates. Je sais pas si Kamala Harris s'était présentée en 2020, peut-être qu'elle aurait été élue.
Ouais,
enfin, tu vois, on peut pas le savoir en fait. Donc,
après, toi, tu disais ça parce que quand Joe Biden s'était présenté, c'est lui qui est passé, c'était un démocrate. Ouais, du coup, en vrai, ça pose vraiment la question, je suis d'accord.
Ouais, ça pose la question.
Moi, je pense que le plus gros point, c'est la prise en puissance du personnage de Trump en fait. Je dis personnage parce que c'en est un, mais c'est surtout que je pense effectivement que à la place de Hillary Clinton, on met Kamala Harris à la première élection qu'il a gagnée finalement, Donald Trump. Je pense que ça se discute un peu plus. En fait, le personnage de Trump, il n'a fait que prendre en influence, en fait. Même aujourd'hui, il a le soutien d'une communauté qu'il n'avait pas du tout avant, les Latinos. On l'a vu, il a gagné leur vote.
Comment il a fait?
C'est
l'Amérique, hein.
Ouais.
C'est difficilement explicable. Je sais qu'il y avait beaucoup de... Ça lui a fait un vrai coup de pub, notamment sa tentative d'assassinat.
Oui,
avec le point levé quand même, c'est une image très forte de l'élection américaine.
Ouais.
Mais après, à ce moment-là, on disait déjà que Trump avait gagné. Et puis finalement, on a vu dans les sondages que en fait, ça allait être serré. Pas du tout, mais...
Et non.
Ouais, peut-être, bon voilà, cette image populaire qu'il a essayé de se donner. Je travaille à McDo, je bosse à McDo, je
fais
tout ça là, c'était tout ça. Alors il y avait un truc qu'on n'avait pas parlé la dernière fois, alors je voulais vous mettre, c'était le truc un peu fou de Elon Musk, c'était concernant le port des armes là. Mm. Vous savez qu'aux États-Unis, on a le droit de porter des armes. Mm. Le pays le plus évolué du monde. Mm. Et donc on peut faire les cow-boys comme ça. Et Elon Musk a défendu ça, et donc il a proposé un truc. Jiggle Elon. Ah oui. This is Elon Musk. Vous avez vu ce qu'il avait proposé pour le port des armes ou pas du tout?
Non, mais non, pas du tout.
Non.
Non plus.
Qu'a-t-il proposé?
Une pétition. Alors écoutez, c'est ça. Écoutez la pétition. Et pourquoi est-ce qu'elle a marché cette pétition?
$1 million, c'est la somme qu'Elon Musk a promis de donner chaque jour jusqu'au vote pour la Maison Blanche à un Américain tiré au sort parmi les signataires de sa pétition lancée la semaine dernière afin de défendre la liberté d'expression et le droit de porter une arme.
Et voilà.
Effectivement, j'avais vu en fait.
Voilà, une fois par jour, quelqu'un était tiré au sort pour gagner un million.
Oui.
Ça donne envie de s'inscrire. Hein.
Il a fait ça pendant combien de temps?
Bon, là, je pense que c'est terminé. Hein,
c'était okay. Ouais, mais c'était juste avant, je crois que c'était une semaine avant, avant l'élection.
Même peut-être plus.
C'est fou que ça se soit pas interdit, quoi.
Bah, en fait, il y a des.
Mais c'est pareil, les États-Unis, les présidents, enfin, les candidats pouvaient faire leur pub à la télé. Il y a des spots de pub pour. Enfin, en fait, tout est commercialisé, en fait.
Ça s'appelle le libéralisme.
Et oui.
Enfin, l'ultra-libéralisme, en l'occurrence.
Non, mais j'appelle ça. Moi, j'ai dit, c'est vraiment le politique. Enfin, c'est le spectacle, les États-Unis. C'est un truc de fou. C'est pas.
Et, oui.
Et ils sont très forts pour le spectacle, quoi. D'ailleurs, même de nous, de l'autre côté, on est là en train de regarder ce qui est en train de se passer là-bas parce que c'est tellement ouf.
Bah, après, parce que ça nous concerne aussi. Enfin, déjà, ça concerne le monde entier.
Ouais.
Ouais.
Plus particulièrement l'Occident. Et,
mais justement, c'est grave. Ça nous concerne le monde entier et c'est ultra commercialisé. C'est, impressionnant.
Ça vous inquiète ou pas? Oui, parce qu'il y avait la question de l'Ukraine aussi, au mieux par rapport aux États-Unis.
Et puis, oui, c'est ça. Il y a aussi ces questions-là, bien sûr.
Bah oui. Bah, c'est un peu inquiétant que la politique prenne ce virage, c'est sûr. Mais je pense que c'était inévitable. Avec le pouvoir qu'ont les États-Unis aujourd'hui sur le monde, on peut le voir avec l'Ukraine, aussi Israël. Il y a eu c'était un des principaux freins, visiblement, à la candidature de Kamala Harris. Sa prise de position sur Israël ou sa non prise de position.
Oui, c'est ça en fait. Ouais. Elle s'est un peu aliénée une frange plus à gauche du parti démocrate, parce qu'on rappelle que finalement Kamala Harris c'est pas la frange la plus à gauche du parti démocrate. En fait, elle serait en France, ça serait l'équivalent de
Hollande. Encore.
Oui, même plus à droite encore.
En même temps, ça n'existe pas la gauche. Oui.
Par exemple, elle existe la gauche aux États-Unis. D'ailleurs, mais le problème c'est qu'elle fait pas beaucoup de voix, et même quelqu'un comme Bernie Sanders, qui reste assez connu quand même, dont on connaît le nom, c'est pas la frange la plus justement qui a le plus d'impact et de pouvoir sur le parti démocrate, malheureusement.
Ok, ouais. Bon bah super, merci beaucoup. On va devoir clôturer là-dessus parce que c'est déjà 18h. Je vous remercie pour avoir fait cette émission. Merci Pauline, merci Léo, merci Thomas et merci Pierre.
Ouais,
et
j'ai puis pas trop pris la parole.
Mais ne t'inquiète pas. Allez,
j'en profite pour dire je t'aime maman.
Ah là là, le petit message est passé. Allez, à la semaine prochaine. Même jour, même heure.